à Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il est 17h30 en temps universel. Jacques Aristide dans votre compagnie. Ravi de vous retrouver pour Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Les titres en ce mercredi 2 mai 2018. Au Mali, nouvelle attaque meurtrière dans des villages proches de la frontière avec le Niger. Au moins 17 civils tués par des djihadistes présumés.
On parle de la présence du système des Moujaou à son temps, des éléments des Moujaou et des Ansarou.
En Libye, le groupe État islamique revendique une attaque meurtrière contre la commission électorale à Tripoli. Le président centrafricain dénonce l'instrumentalisation de la religion après des combats meurtriers à Bangui. Le nouveau secrétaire d'État américain Mike Pompeo veut sans délai le démantèlement du programme nucléaire nord-coréen. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rubriques économiques et sportives à venir dans 10 minutes. Au Mali, au moins 17 civils, dont des personnes âgées, ont été tués hier dans deux villages proches de la frontière avec le Niger. C'est ce qu'ont indiqué aujourd'hui deux groupes combattants locaux qui dénoncent des horreurs inégalées après de récentes attaques ayant fait plus de 40 morts. Yacouba Ouédraogo pour les détails.
D'après un communiqué de la coalition Gatcha MSA, les éléments du même groupe terroriste ont procédé hier à l'exécution de 17 personnes à Tindimbaoué, État El Alain, deux villages de la commune de Menaka. Des personnes âgées ont été brûlées vives dans leur maison. Après leur forfait, les assaillants ont emporté des biens appartenant aux populations. Les auteurs de ces exactions appartiendraient au groupe État islamique dans le Grand Sahara. Ce groupe, basé à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso, est dirigé par Adnan Abou Walid Sahraoui, un transfuge d'ACMI qui a aussi co-dirigé le Moujaou. Mardi, la MINUSMA a dénoncé les violences récentes contre les civils dans la région de Menaka. La force française Barkhane a condamné ces actes commis à l'encontre des civils. Au moins 47 personnes ont été tuées les 26 et 27 avril dans cette même région de Menaka.
Nous y reviendrons dans la partie magazine avec le témoignage d'un habitant de la région. Deux kamikazes du groupe État islamique ont attaqué ce mercredi le siège de la commission électorale à Tripoli. Au moins 12 personnes ont été tuées, un assaut perpétré au moment où la communauté internationale appelle de ses voeux à des élections en 2018 pour sortir la Libye de l'anarchie. Le point avec Marie Benson.
Quatre individus armés ont attaqué le siège de la haute commission électorale à Tripoli. Les assaillants ont tué 12 personnes et ont fait 7 blessés, dont 2 grièvement. Les autorités libyennes ont imposé un périmètre de sécurité pour empêcher quiconque de s'approcher. Le gouvernement d'Union nationale a parlé d'actes terroristes qui n'empêcheraient pas la tenue des élections en Libye. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. Son organe de propagande Hamak affirme que 2 opérations suicides ont frappé le siège de la communauté électorale. Aucune date n'est annoncée pour les élections, mais selon la commission électorale, 2,5 millions d'électeurs sont déjà inscrits. En mars, Human Rights Watch a affirmé que la situation sécuritaire ne permettait pas la tenue d'élections libres et transparentes en Libye.
Le président centrafricain dénonce l'instrumentalisation de la religion à des fins politiques au lendemain de violences meurtrières dans une église et une mosquée à Bangui, combats qui ont fait au moins 16 morts. Les groupes armés veulent confessionnaliser leur ambition politique et le pillage du pays. Ce conflit n'est pas confessionnel, a déclaré ce mercredi Faustin Archange Touadéra à l'église Saint-Paul en présence de l'archevêque de Bangui, Dieudonné Zapalenga. Le correspondant de VOA Afrique à Bangui nous dira davantage un peu plus tard dans notre partie magazine. Congo-Brazzaville, les avocats du général Jean-Marie Michel Mokoko, candidat à la présidentielle de 2016, ont saisi l'ONU et veulent également saisir d'ici à la fin de semaine la Commission africaine des droits de l'homme pour réclamer la libération de leurs clients détenus arbitrairement. D'après eux, les avocats ont par ailleurs annoncé avoir été informés ce mercredi du renvoi du procès de leurs clients devant la Cour criminelle pour les mêmes faits. Le procès devait initialement s'ouvrir fin mars. Le général Mokoko, surnommé J3M, ex-chef d'état-major de l'armée congolaise, a été battu à la présidentielle par le président Denis Sassou Nguesso, qui cumule plus de 32 ans à la tête du Congo. Au lendemain du scrutin, Mokoko a été incarcéré, notamment pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État et détention illégale d'armes et de munitions de guerre. En République démocratique du Congo, un militant pro-démocratie, Carbone Beni, détenu au secret depuis 4 mois par l'Agence nationale de renseignement, a été hospitalisé ce mercredi à Kinshasa. Âgé d'une 30aine d'années, il a des douleurs au niveau du bas-ventre et des genoux, d'après un de ses proches. Carbone Beni est l'un des responsables du mouvement Filimbi, arrêté en même temps que 4 autres, tous opposés au maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Le procès en appel de 2 anciens maires rwandais accusés de génocide s'est ouvert ce mercredi devant la justice française. Octavien Ngezi et Tito Barahira ont été condamnés en 2016 à la prison à vie pour leur participation au génocide des Tutsis dans leur village de Kabarondo en avril 1994 au Rwanda. Pour ce second procès, les nouveaux avocats des accusés tenteront de voir si leurs clients pourront échapper à la prison à perpétuité. Le Nigeria a ordonné ce mercredi le renforcement des mesures de sécurité près des marchés et lieux de prière au lendemain d'une double attaque terroriste dans le nord-est du pays. Un kamikaze s'est fait exploser hier dans une mosquée de Moubi dans l'état d'Adamawa, puis un second dans un marché qui se trouve à proximité au moment où les fidèles s'enfuyaient. D'après les autorités, 26 personnes ont été tuées, 56 autres blessées. De leur côté, des habitants ont évoqué plus de 80 morts. Le vice-président nigérian Yemi Osinbajo, qui a assuré l'intérim du président Buhari lors de sa visite aux États-Unis, a déclaré que le gouvernement était choqué et révolté par ces attaques. Au Burkina Faso, il est difficile pour... Nous allons plutôt passer à autre chose. À Madagascar, l'armée et la police ont mis en demeure ce mercredi le gouvernement et l'opposition de trouver rapidement une issue à la crise politique qui agite le pays au 12e jour de la fronde contre le régime du président Irajonar Mampianin.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Iran dément les accusations du Maroc qui a rompu ses relations avec Téhéran en lui reprochant d'avoir facilité une livraison d'armes au Front Polisario, mouvement indépendantiste au Sahara occidental. John Lyndon.
Démentant fermement ces accusations, le ministère iranien des Affaires étrangères a dénoncé dans un communiqué un prétexte. Cette affaire est totalement dénuée de fondement, a poursuivi le ministère iranien, assurant que son pays a toujours eu comme ligne de conduite le respect de la souveraineté et la sécurité des pays avec lesquels il entretient des relations et la non-ingérence dans ses affaires intérieures. Le Maroc a annoncé mardi la rupture des relations diplomatiques avec Téhéran. Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, avait accusé l'Iran d'avoir facilité via le Hezbollah libanais une livraison d'armes au Front Polisario. Rabat a affirmé qu'un élément à l'ambassade d'Iran à Alger avait participé à l'opération. Le mouvement indépendantiste sahraoui, soutenu par l'Algérie, a démenti cette affirmation. Mais l'Arabie saoudite a apporté son soutien au royaume chérifien. Le Maroc, proche allié des Saoudiens, avait déjà rompu ses relations avec l'Iran début 2009 en dénonçant un activisme religieux de Téhéran avant de les rétablir en 2014.
Le président américain Donald Trump a fait sa première visite au département d'État pour assister à la cérémonie de prestation de serment du nouveau secrétaire d'État Mike Pompeo. Nathalie Barge.
Mike est un vrai patriote, a déclaré Donald Trump en félicitant le nouveau chef de la diplomatie américaine. Lors d'un bref discours, Mike Pompeo a notamment appelé au démantèlement sans délai du programme nucléaire nord-coréen. Il a été confirmé jeudi par le Sénat américain avant de se rendre à une réunion de l'OTAN à Bruxelles, puis en Arabie saoudite, en Israël et en Jordanie. Le corps diplomatique américain doit être dans tous les coins du monde, effectuer des missions au nom de ce pays et c'est mon humble engagement pour vous aider à atteindre cet objectif, a déclaré Pompeo hier en s'adressant au personnel. l'ancien directeur de la CIA, prend la tête du département d'État. Il vient remplacer Rex Tillerson qui a été limogé en mars par le président Trump. Pendant son passage en Israël, il a affiché une ligne dure face à l'Iran et doit maintenant préparer la rencontre historique entre le président américain et le dirigeant nord-coréen dans les prochaines semaines.
Et puis, après des décennies d'attentats meurtriers en Espagne et en France, l'organisation séparatiste basque ETA a annoncé aujourd'hui sa dissolution, mettant un terme à la dernière insurrection armée d'Europe occidentale. La faction clandestine, qui a tué au moins 829 personnes en 43 ans, écrit dans une lettre avoir décidé de mettre fin à son cycle historique et à sa fonction et dissout complètement toutes ses structures. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Sans plus tarder, un condensé des nouvelles économiques en Afrique, il est l'heure de la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
Pose de la première pierre à Kinshasa, d'une nouvelle aérogare pour poursuivre la modernisation de l'aéroport international d'Ondjili. Elle aura une capacité de 40 000 m2. De nouvelles pistes et un nouveau parking seront également construits. L'aérogare coûtera près de 365 millions de dollars. Kinshasa a débloqué 20 millions et la banque chinoise Exim Bank donnera 40% du montant total. La nouvelle aérogare devra régler les problèmes de flux annuels de 3 millions de passagers et répondre aux normes internationales. Kinshasa reçoit peu de vols internationaux avec pour connexion directe notamment Bruxelles, Paris, Istanbul, Libreville, Nairobi, Addis Abeba. Au Sénégal, les expropriés de l'aéroport international Blaise et Diagne dénoncent leurs conditions de relogement. D'après Abdou Aziz Diouf, secrétaire général du mouvement Samsa Momel, les populations riveraines déplacées à l'occasion des travaux de construction de l'aéroport sont plongées dans le noir et boivent de l'eau de pluie. Il rappelle aussi des dysfonctionnements dans le processus de dédommagement. Les populations refusent de rejoindre le site de recasement qui appartient à des paysans non encore indemnisé. Le FMI accorde au Ghana 191 millions de dollars pour rétablir la viabilité de sa dette et la stabilité macroéconomique pour stimuler la croissance et la création d'emplois du pays. Ce décaissement devrait être l'un des derniers sous la présidence de Nana Akufo-Addo qui ne veut plus avoir recours au financement du FMI.
Et maintenant, un tour d'horizon de l'actualité sportive. Nous retrouvons Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Deuxième demi-finale de la Ligue des Champions ce soir.
Et oui, le coup d'envoi c'est à 18h45, temps universel. Trois semaines après un incroyable exploit contre Barcelone, l'AS Rome va tenter de remonter 3 buts de retard contre Liverpool qui l'avait battu 5-2 à l'aller en Angleterre. Un nouveau miracle est possible, estime l'entraîneur des Romains, Eusebio Di Francesco.
Et les demi-finales en Europa League demain.
Après le match nul 1-1 partout à l'aller, la demi-finale retour de l'Europa League s'annonce pleine de suspense entre l'Atlético Madrid et Arsenal. L'Atlético peut s'appuyer sur sa solidarité à domicile et ses bonnes performances européennes ces dernières années. Tenez-vous bien, 2 titres en Europa League en 2010 et 2012 et 2 finales de la Ligue des Champions en 2014 et 2016. Dans l'autre demi-finale, l'OM peut rêver après son succès 2-0 au Vélodrome contre Salzbourg. L'enjeu pour les Marseillais, atteindre la finale de la C3, un rêve qui n'a plus été atteint depuis 2004. C'était alors l'époque de la Coupe UEFA et la finale de l'OM avait été perdue contre Valence.
Camara prolonge en Ligue 1.
L'attaquant sénégalais Souleymane Camara, libre en juin prochain, a prolongé son contrat à Montpellier pour une durée d'un an. Camara, âgé de 35 ans et formé à Monaco, s'apprête à disputer sa 12e saison à Montpellier où il est arrivé en 2007 en provenance de Nice. L'ancien international sénégalais qui compte près de 400 matchs en Ligue 1 est le meilleur buteur en exercice de Montpellier avec 71 buts. Il a disputé cette saison 24 matchs, dont 8 comme titulaire.
Et puis NBA, championnat de basket nord-américain.
Stephen Curry, le Warrior, est de retour et les Pelicans en ont fait les frais hier soir en concédant une deuxième défaite sur le parquet de Golden State en demi-finale de conférence. Absent depuis le 23 mars pour une entorse du genou gauche, Curry a inscrit 28 points lors de cette victoire 121 à 116 contre la Nouvelle-Orléans. Alors que dans la conférence Est, Cleveland a arraché la victoire à Toronto en prolongation. Toronto y a cru, mais LeBron James, qui a dit que c'était l'un de ses pires matchs de sa carrière, a quand même aidé son club de Cleveland pour s'imposer 113 à 112 en prolongation sur le parquet des Raptors.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant d'aborder notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Mille merci pour votre fidélité à VOA Afrique. La situation sécuritaire continue de se détériorer dans la région de Ménaka, dans le nord-est du Mali. Nous vous le disions plus tôt, rien que ce mercredi, 17 civils, dont des personnes âgées, ont été tués dans deux villages proches de la frontière avec le Niger. C'est dans la même région que plus de 40 personnes ont été tuées la semaine dernière. Bagassé Koura a joint un habitant de la région qui a préféré garder l'anonymat pour des raisons de sécurité. Nous l'écoutons.
Après l'attaque sur les civils dans la semaine passée dans la région de Ménaka, en date du 26 au 27, un bilan de 41 morts.
Voilà, plus de 40 morts.
Hier, à 55 km de Ménaka, à Kidimbawin et Karingit, il y a des hommes armés qui ont attaqué des campements de Imarad et de Idrifan. D'après les informations qu'on a reçues, il y a plus de 16 à 17 morts dans les deux camps.
Est-ce que c'est un règlement de compte, d'après ce que vous avez appris?
D'après ce que j'ai appris, on m'a dit que c'est des hommes armés non identifiés. En fait, je ne peux pas dire que c'est un règlement de compte ou que ce n'est pas un règlement de compte. Tout ce que je sais, c'est que c'est deux communautés différentes qu'on a attaquées.
Lesquelles?
Il s'agit de campements de Imarad et de campements de Idrifan dans la zone.
Mais d'une façon générale, quel groupe armé, quel groupe djihadiste opère dans cette partie du pays?
On parle de la présence des islamistes. Je vais parler de des Moujaou à son temps, des éléments des Moujaou et des Ansarim.
On parle aussi de l'État islamique au Sahel, hein?
Bien sûr.
Et comment est la situation d'une façon générale, notamment sur le plan sécuritaire? Est-ce que les écoles sont ouvertes?
D'une façon générale, la sécurité dans les deux dernières semaines devient de plus en plus grave, très grave, dans la région de Ménaka. Parce que les communautés, les civils sont en train d'être attaqués, ce n'est pas des gens qui sont armés. Donc, d'une façon en général, l'insécurité est en train de prendre le terrain dans la région de Ménaka, et surtout sur les civils. Par rapport aux écoles, dans la région de Ménaka, il y a des écoles qui ne sont pas jusqu'à là ouvertes, faute de l'insécurité. Sauf dans la ville de Ménaka, ou dans les cercles de Ménaka où il y a peu d'écoles qui sont ouvertes.
Et que dit le gouvernement? Que fait le gouvernement sur le terrain? Est-ce qu'on sent la présence de forces de sécurité?
Oui, dans ces deux jours-là, on voit la présence de l'armée, de l'armée malienne et de l'armée internationale. Je vais parler de Barkhane, je vais parler de l'aménagement, qui sont présents d'ailleurs sur le terrain. Parce qu'avant ces événements-là, il y a même des opérations avec les mouvements qui sont là, dans cette zone-là. Donc, d'après les informations que j'ai reçues, il y a même des renforts qui sont partis vers ces localités où il y a eu ce problème-là.
On écoutait le témoignage d'un habitant de Ménaka, dans le nord-est du Mali.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Retour en République centrafricaine, le bilan de l'attaque perpétrée hier contre l'église catholique Fatima de Bangui continue de s'alourdir. Les autorités font désormais état de plus de 20 morts et de moins 200 blessés. Aujourd'hui, le président centrafricain a dénoncé un acte terroriste qui ne restera pas impuni. Sur place à Bangui, le compte-rendu de notre correspondant Freeman Sipila.
Bangui est calme ce mercredi, mais la consternation y est encore grande et le peuple profondément affecté. Dans la rue, la colère est encore palpable.
Le gouvernement est le garant de la sécurité. Le gouvernement doit prendre entièrement sa responsabilité afin d'éradiquer ce genre de pratiques. Autrement dit, nous, population, nous allons marcher à main nue vers le gouvernement parce qu'on en a marre.
Rentré tôt ce matin dans la capitale après un déplacement à Rome, l'archevêque de Bangui, cardinal Nzapalainga, appelle à une mobilisation contre les ennemis de la paix.
Je voudrais sans embâge condamner énergiquement ce qui s'est passé en la paroisse de Fatima. Et j'en appelle au gouvernement et à la MINUSCA pour que la lumière soit faite, c'est-à-dire qu'on puisse savoir la vérité et que justice soit rendue aussi à la population centrafricaine. Derrière ces événements, je me pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il des manipulations? Y a-t-il instrumentalisation? Y a-t-il volonté de diviser le pays? Y a-t-il un agenda caché? Voilà pourquoi j'en appelle à tous les groupes politiques, administratifs, les groupes religieux, sans distinction, pour que tous ensemble nous puissions nous lever pour condamner comme un seul homme ce qui est arrivé.
Imam Kobine Layama, président de la communauté islamique centrafricaine, dénonce un acte perpétré par des sang-froid.
Un acte qui a été perpétré par un hors-la-loi, par quelqu'un qui est sang-froid. Parce que je ne comprendrai pas que quelqu'un puisse aller tirer froidement sur des fidèles qui adorent le Seigneur, que le musulman adore. Jusqu'à quand nous allons mettre fin à cela? Et à mes frères centrafricains qui ont la foi à Dieu, ne donnons pas l'occasion à ceux-là qui veulent nous mettre et mettre notre pays par terre, à genoux, à cause des richesses que regorge notre pays.
Le chef de l'État centrafricain, qui s'est exprimé depuis l'archevêché de Bangui, dénonce pour sa part un acte terroriste qui ne restera pas impuni. Faustin Archange Touadéra.
Je voudrais vous informer, peuple centrafricain, que derrière ça, il y a des gens qui appellent Abdoulaye Sen, qui appellent force pour qu'ils se mobilisent davantage. Et qui sont et qui vous côtoient, ce ne sont pas forcément tout le monde. Alors faisons attention de ne pas tomber dans l'amalgame chrétien contre musulman. C'est faux, ce sont vos compatriotes. Les responsables seront poursuivis. Ce sont des terroristes avec leurs complices qui sont aussi parmi vous. Et je vous le dis, et d'autres sont à l'extérieur.
Le bilan de cette attaque perpétrée par une bande armée du PK5 continue de s'alourdir. Provisoirement, il fait état d'une vingtaine de morts et d'au moins 200 blessés. Trois jours de deuil national sont décrétés à partir du jeudi 3 mai sur l'ensemble du pays. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Au Burkina Faso, il est difficile pour les populations de passer une journée sans délestage. Ces interruptions momentanées d'électricité coïncident avec une période de forte chaleur où la température dans la capitale atteint, tenez-vous bien, les 40 degrés. De Ouagadougou, le reportage de Lamine Traoré, correspondant de VOA Afrique.
Ouagadougou, chaque jour connaît son lot de délestages. Plusieurs quartiers sont souvent touchés, ce qui freine certaines activités. Nous sommes dans le quartier Katria, dans cet atelier de menuiserie, vitrerie et aluminium. Quand il n'y a pas d'électricité, tout s'arrête. Paul Ouedraogo en est le gestionnaire.
Ici, on a des machines, on a des outils qu'on utilise, surtout avec l'électricité. On a des commandes. Quand il n'y a pas d'électricité, on ne peut pas travailler. Les voisins nous embêtent. C'est un manque à gagner parce que nous, on travaille sur le train.
Autre lieu, pratiquement la même réalité. Une poissonnerie située non loin du siège du CIAO, Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Là-bas, ils connaissent des délestages permanents. D'ailleurs, on tombe à pic. Il n'y a pas d'électricité à la poissonnerie. Célestin Ouedraogo, gérant.
Souvent du matin jusqu'au soir, et après encore le soir, jusqu'à 22h, souvent à 23h. Donc si vous constatez tout à l'heure, même il n'y a même pas de courant. Donc on ne sait pas à quelle heure ça va venir.
À la Sonabel, Société nationale d'électricité du Burkina, on tente d'expliquer ses nombreux délestages. Pascal Emma, directeur des transports à la Sonabel.
Depuis un certain temps, nous rencontrons une difficulté, notamment un déséquilibre entre l'offre et les besoins de la clientèle qu'on appelle la consommation. De telle sorte que l'offre disponible ne peut pas satisfaire à la demande de la clientèle et nous sommes obligés d'opérer ce qu'on appelle le délestage.
La Sonabel dit travailler à minimiser le déséquilibre, mais il y a des sacrifices à faire, surtout au niveau de la population.
Si on est assis au salon, qu'on veille à éteindre les lampes dans les chambres Nous avons publié un programme de délestage, un programme qui permet aux uns ou aux autres de savoir à tel moment de la journée ou de la nuit je suis susceptible d'être interrompu pour pouvoir justement rétablir l'équilibre.
En attendant l'interconnexion avec le Ghana voisin, pour remédier à ces difficultés en fourniture d'électricité, ces perturbations énergétiques vont se poursuivre, selon les responsables de la Sonabel. Le premier ministre Paul Kabatieba, lui devant la représentation nationale, a annoncé qu'en 2019, ça sera zéro délestage. Attendons donc de voir. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
La Libye veut récupérer les fonds alloués à plusieurs pays africains par l'ancien dirigeant Muammar Kadhafi, mort en 2011. C'est ce qu'a indiqué ce mercredi le ministre libyen des Affaires étrangères du gouvernement d'Union nationale. D'après Mohamed Taher Siala, ces fonds sont évalués à 67 milliards de dollars, constitués de prêts et de prises de participation dans des sociétés en Afrique et dans le monde arabe, que la Libye n'arrive pas à récupérer à cause du chaos politique depuis la chute du régime de Kadhafi. Pour analyse, Abdourahman Nadia s'est entretenu avec Ahmedou Ould Abdallah, un ancien fonctionnaire de l'ONU, aujourd'hui directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel-Sahara.
Le gouvernement est reconnu internationalement. Il fait une demande probablement parce qu'ils ont des besoins pressants, non seulement pour payer leurs fonctionnaires, leurs militaires, mais aussi faire face aux besoins de l'État, éducation, santé. Et la demande me semble en tout cas logique. Et dans la mesure où le gouvernement est internationalement reconnu, il est tout à fait normal que le gouvernement cherche à récupérer les biens qui, dans le droit international, sont légitimes dans la mesure où on parle de continuité de l'État.
Pour le gouvernement d'Union nationale libyen, quelle serait la meilleure option pour entrer dans ces fonds? Est-ce que ce serait d'intenter un procès ou d'engager des négociations avec ces pays?
La meilleure solution, je n'ai pas tous les éléments naturellement, mais la meilleure solution, c'est de faire l'état de lieu, ce que d'après toutes nos informations, ils ont déjà fait, que ce soit le gouvernement actuel, y compris sa tendance à Benghazi, et y compris même les groupes de l'ancien Premier ministre Laroyel, ils connaissent l'état des lieux
et ce qu'ils peuvent. Il parle de 67 milliards de dollars qui seraient dans ces pays-là.
Je pense qu'il est tout à fait légitime et normal qu'ils entament des négociations pour établir un calendrier de paiement, même si ce n'est pas en totalité, que les pays qui ont ces sommes, soit comme prêt, soit comme argent confié par Kadhafi avant de quitter le pouvoir, que le gouvernement actuellement et surtout les populations puissent en bénéficier et selon un échéancier qui sera négocié entre parties. Le procès ne doit venir qu'en dernière et ultime situation.
Certains pays pourraient dire que c'était plutôt des dons et pas des prêts.
Ce que je sais, c'est que tous ces prêts et tout cet argent confié par Kadhafi sont bien documentés. Il s'agit de trois choses différentes, quoi. Les fonds confiés au dernier moment, il paraît que Kadhafi aurait caché tout ou partie de ses réserves pendant les derniers jours de son régime. On peut demander ça éventuellement, mais il faut savoir dans quel pays ça se trouve.
Ahmedou Ould Abdallah, directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel-Sahara, il était en ligne de Nouakchott.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mercredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit, Peace Africa!
Et bien voilà, le monde aujourd'hui prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Sims Lumami. C'était notre ami Dan Crafton qui était à la technique. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide dans la capitale américaine. Je vous souhaite une excellente soirée sur VOA Afrique. À très bientôt. Take care.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wenpanga, Wayegouya Burkina Faso et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique,